step to the rear, cause the sound that you hear, step to your ear, and we want it made loud and clear, that the five MCs are definitely here. We got Lele Bell, cause I rock so well.
We got Mr. Ness, because I rock so bad.
And Raheem, all the ladies drink.
Cowboy, I make you jump for joy.
And Creole,
solid gold.
The Kid Creole,
that's playing the role.
I can't do it, I can't do it, I can't do it without that disco fluid. Young ladies, rock on. Young ladies, who don't know my name? And you fellas, who don't know my game? Yes, I'm called the Prince of Soul, but others call me the Kid Creole. The MC Delight, young ladies bite. And when I'm on the mic, I rock the house right. I'm the dedicated.
Help me, Jack. Oh, I'm living in a danger zone. Murder life. Why you living in a murder zone? Mama ball and papa ball. To see them youth dying in the streets. To my gunshot, you can't walk too free. Light bulb on, everything dark. Gunshot a back.
Chase you out of earth.
Heure 2 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de Radio G. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale avec mes camarades qui sont avec moi pour cette heure consacrée au sport sur Radio G. On est avec Cédric à ma droite. Salut Cédric, comment ça va ?
Salut à tous, écoute, ça va plutôt bien.
Un bon petit week-end ?
Ouais. Week-end classique.
Classique, des vacances.
Du repos.
Du repos, évidemment.
Du repos après la semaine, ouais.
C'est toujours important. T'as suivi un peu l'actu sportive, forcément, ce week-end, un peu.
Un petit peu, mais moins que prévu.
Ouais.
Parce que bon, entre les matchs à 9h, c'est un peu dur, quand même.
Ah bah oui, c'est vrai, il y a eu cette...
C'était compliqué. Ligue 1, bon, bah, c'est le problème de quand t'as pas les chaînes.
Oui.
Et puis bon, après, le reste, on a suivi... En ayant un œil à droite à gauche, quoi.
Ok, très bien. À ma gauche, il a un petit peu remplacé Faustin. C'est Clément qui était là la semaine dernière avec nous, qui est encore là ce soir. Salut Clément, comment ça va ?
Salut, bah ça va.
Très bien. Un bon petit week-end toi aussi ?
Oui, bah on a suivi le sport. On a suivi pas mal le sport. J'ai regardé le match de l'équipe de France, forcément. Enfin les deux matchs parce que le rugby plus. Plus l'équipe féminine et puis la reprise de l'entraînement de foot hier, ça fait du bien.
Ça fait la prépa physique pour
c'est ça.
Pour la saison.
C'est ça.
Le décrochage du mois d'août.
C'est ouais. Ça, oui, parce que forcément il y a eu les vacances, donc voilà, faut revenir en forme. C'est ça.
Ça commence tôt, n'empêche. Hein.
Bah ouais, ça commence tôt. Ouais. Bah oui, c'est dans ces eaux-là généralement que ça recommence. Ça évolue à quel niveau? Donc toi, t'es donc dans l'équipe jeune
de Montreuil U17. Montreuil,
c'est ça, U17.
Ouais, et on va jouer en D1. Okay. Bon, on va essayer de viser la montée en région, mais
pourquoi pas?
On va voir.
On croise les doigts pour toi. Voilà. On rappelle gros transfert hein, de Avrillé jusqu'à Montreuil.
C'est
donc,
ça. Voilà.
Entre deux équipes rivales. au programme de cette émission, comme je le disais, on va revenir sur l'actualité locale. Il y a un peu plus de choses que les dernières semaines, avec notamment le SCO, une petite recrue du côté de l'EAB, et puis également, on va parler de Solène Bilouin qui brille au cross triathlon, et puis en international, on va être un peu plus léger en parlant un peu de foot. Il y a eu pas mal de choses. On va revenir sur l'élimination des Françaises à la Coupe du Monde féminine, et puis également parler un petit peu de la première journée de Ligue 1. Pourquoi pas de ce qui se passe au PSG avec Mbappé qui revient dans le groupe professionnel et Neymar qui s'en va. Et puis on parlera un petit peu de Marseille. Qui joue ce soir sa place en Ligue des Champions contre le Panathinaikos. Et puis tu le disais Clément, il y a eu du rugby ce week-end avec ce match amical contre l'Écosse et également donc cette blessure de Romain Ntamack. On revenir là-dessus. Et puis un petit mot de tennis avec le Masters 1000 de Toronto qui s'est terminé la semaine dernière et celui de Cincinnati qui a débuté hier. Et donc voilà, on fera notamment un point sur Gaël Monfils qui est revenu au plus haut niveau. Voilà pour le programme. Bah écoutez, on va commencer sans plus tarder avec le SCO pour son deuxième match de l'année en Ligue 2. Les Angevins espéraient rebondir à domicile après leur défaite 1-0 du côté de Laval face à Annecy. Les partenaires de Pierrick Capel n'ont pas pu faire mieux que match nul 0-0 au terme d'une rencontre assez terne. Au classement, ce seul point de la saison ne permet pas au SCO de décoller et les SCOistes sont ce mardi 15e du championnat. Leur prochain match se déroulera également à domicile, ce sera samedi prochain à 15h à Raymond Coppa contre un autre relégué de Ligue 1 puisque ce sera contre Auxerre. Un match qui pourrait permettre de situer un petit peu le réel niveau du SCO dans son championnat Ligue 2 parce que messieurs, on a un début de saison assez tranquille, pour pas dire autre chose, du côté du SCO. Un point sur 6, c'est pas encore trop ça.
Ouais, c'est surtout que ce match-là, logiquement, on doit le gagner. Hein.
Oui, bien sûr. Enfin, on rappelle qu'Annecy a été sauvé.
Dernière
seconde.
Je pense pas qu'ils ont le temps vraiment de faire des recrues. Enfin, c'est. Alors, effectivement, ça pouvait sentir aussi le match piège en début de saison.
Ouais.
Mais bon, ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'était pas forcément ça au niveau offensif. C'est, il y a déjà des choix un peu bizarres, des joueurs qui ont fait une bonne impression sur le premier match, qui étaient titulaires, qui sont pas revenus comme titulaires. C'est un peu étonnant de faire déjà un turnover. Alors je sais bien que bon, il y a les matchs de préparation qui ont pas forcément été aussi exceptionnels en termes d'attaque. Donc, il y avait déjà une petite alerte, mais bon, ça reste les matchs de préparation. Il y a peut-être un peu plus d'envie pour l'instant dans le vestiaire, mais c'est pas flagrant. Est-ce que l'entraîneur est réellement l'homme de la situation pour motiver tout ça? Enfin, je sais pas. Ça reste très compliqué. Enfin, de toute façon, on est habitué avec le SCO depuis que de toute façon. C'est parti en cacahuète, voilà.
Oui.
Puis bon, quand tu vois que même le club est toujours pas structuré, officiellement, ton président n'est plus ton président, mais comme il a encore des parts, il a le droit de parler aux joueurs. Enfin, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui font que, en tant que joueur, est-ce que tu peux adhérer au projet, tu vois? Enfin, c'est très compliqué. Tu vas pas dire bah non, mais moi je veux pas que Chavannes il vienne nous faire une causerie en début de saison. Tu sais que si tu fais ça, t'as une chance sur 10 de te retrouver avec la réserve, et encore si t'as la chance de jouer avec la réserve. Donc je pense qu'il y a encore, tu vois, tous ces petits trucs qui doivent encore parasiter un peu au niveau du club. Le recrutement, bon, il est pas encore tout à fait fini.
mais il est pas
exceptionnel. Il y a eu quelques alertes peut-être de départ à nouveau.
Et puis surtout, on mise surtout sur les jeunes. Et comme tu disais, il y a des vrais faux départs avec notamment Baptiste Amédi qui était
testé
et puis qui finalement a été dans le groupe ce week-end. Donc c'est vrai que ça c'est compliqué. Clément, toi, t'en penses quoi de cette situation du SCO?
Bah, c'est vraiment pauvre en attaque. Enfin, j'ai un copain qui était au stade. Moi, j'ai pas trop vu le match, mais il m'a dit que franchement en attaque, il y avait rien du tout. C'était vraiment pauvre.
Ouais, c'est ça.
Il avait jamais vu.
Le
SCO, ça donne vraiment pas envie, quoi. En ce moment, enfin.
Ouais, l'animation offensive, elle est assez triste.
J'espère qu'ils arriveront à recruter un attaquant. Avant la fin du mercato,
ce serait bien un attaquant d'expérience. Ouais. Et puis c'est vrai que moi je commence à regarder. Donc c'est Auxerre qui est un ancien club de Ligue 1. Est-ce que voilà, moi je me dis une défaite contre Auxerre, un point en trois matchs, je me dis que ça va commencer à se poser des questions sur Alexandre Dujeu et qu'il va falloir en tout cas regarder après les prochains matchs, quoi. Sans parler de départ ou quoi. Il a intérêt à gagner s'il veut pas être un peu comme Batik à une époque, c'est-à-dire avoir entre guillemets chaud aux fesses pour son poste.
Ouais, et puis enfin, c'est peut-être Auxerre qui a plus à perdre sur le prochain match qu'Angers au final, parce que bon, on sait que voilà, Auxerre a fait la montée, ils sont restés 2 ans, ils redescendent ou il faut qu'une année, je sais plus du coup.
Ils font 2 ans,
c'est ça. Voilà, ils font un peu le yo-yo du coup. Donc non, pour eux,
je crois que c'était qu'une année. Enfin,
en tout cas, eux, ça leur fait faire le yo-yo.
C'est ça, ouais.
Et bon, on sait que financièrement, c'est pas forcément l'idéal pour un club. C'est pour ça que pour Angers, je dirais pas que c'est encore un match de tous les dangers, parce que voilà, le classement au bout de trois matchs n'est pas forcément révélateur de ce que va être la saison. Mais on doit aller chercher au moins le match nul, mais avec des ambitions.
Bah c'est ça.
Pas que ce soit un vieux 0-0 ou.
Bah il va falloir, je te dis.
Ou limite tu t'allumes et puis tu reviens 90 minutes, le score a pas bougé, quoi. Enfin
c'est. Ouais, c'est ça. Il faudrait vraiment.
Il va falloir que ça attaque un peu plus, que ça.
Surtout à domicile en fait, c'est ça.
C'est ça.
Qui serait dommage, c'est de pas faire plaisir aux supporters qui se déplacent encore.
Sinon ça va finir. On va avoir le record Ligue 1.
Ouais, c'est ça.
Et on va avoir le record en Ligue 2.
Ouais, ça. Non, faut pas qu'on redescende en national.
Non, non.
D'ailleurs, en parlant de national, donc Cholet s'est imposé 2-0 pour la première journée de national. Une belle victoire des Choletais qui leur permettent de truster pour l'instant, évidemment, dès la première journée, les premières places. Donc c'est vrai que Cholet, à chaque fois, on se pose la question, est-ce qu'ils peuvent jouer la montée? C'est toujours très compliqué, mais à chaque fois, ils se débrouillent plutôt bien. Ils arrivent à choper des fois, ils arrivent à bien se maintenir, en tout cas dans l'entremou, et à se maintenir assez tôt. Donc pour l'instant, ils sont premiers avec Le Mans, un autre club de Pays de la Loire. Et donc, voilà, avec cette victoire 2-0 à domicile contre Châteauroux. On espère pour les Choletais que ça pourra continuer comme ça, et que pourquoi pas avoir des derbys Cholet-Angers. Plutôt en Ligue 1 plutôt qu'en National. Voilà, ce serait Ligue, plutôt préférable.
Ligue 2 déjà, ce sera bien.
J'ai dit quoi?
T'as dit Ligue 1, dis-moi.
Ligue 2 plutôt que National, bref.
Parce que, je pense que là, il va falloir qu'ils aient le budget, qu'ils aient peut-être le stade aussi, mais pourquoi pas après. Hein.
Pourquoi pas, on verra.
Mais dans l'immédiat, je pense que...
C'est plus une ville de basket.
Pour eux, oui, déjà. Et puis eux, je pense que ce serait plus rester
en Ligue 2.
Non, au moins en Ligue 2, je pense.
Oui, ouais, monter en Ligue 2 pourquoi pas.
Monter en Ligue 2 pour... Voilà.
Voilà pour le petit point sur le football local. On va passer maintenant au basket. Alors qu'on pensait le mercato de l'Étoile Angers Basket terminé, les dirigeants de l'EAB ont frappé fort en obtenant la venue de Darrel Poirier au sein de l'effectif angevin. Cet ancien joueur de Cholet Basket évoluait encore dans les Mauges l'année dernière en tant que joker médical. Il s'agit d'un joueur de poste 4 et 5 qui possède une bonne expérience de la Betclic Elite et qui pourrait apporter beaucoup au groupe d'Ali Bouziane. En tennis, l'Angevin Nicolas Mahieu a été sélectionné pour participer à la Coupe Davis 2023 avec l'équipe de France. Pour rappel, la compétition se situe désormais sur une semaine, sur une seule semaine, avec 4 poules de 4. Placé dans la poule poule B, les Français se rendront à Manchester pour y défier l'Australie, la Grande-Bretagne et la Suisse à partir du 12 septembre prochain. On termine les infos locales avec une info de triathlon et la lauréate 2022 de la d'Allangevin, Solène Bilouin, qui continue de performer sur le circuit du cross triathlon mondial. La licenciée du SCO cyclisme et du SCO triathlon a remporté l'étape de la Coupe du Monde Xterra en République tchèque. Cette victoire lui permet de se replacer à la quatrième place du classement général. Et Langevin s'est également imposé sur le short track dès le lendemain. Voilà pour les infos.
Oui. Aussi, il y a Amandine Brossier, du coup, c'est plutôt en fin de semaine et la semaine prochaine qui participe au championnat du monde à Budapest.
Exactement, on suivra ça. Ça va commencer à partir, donc, tu le disais,
de samedi, je crois.
De samedi. Donc, on suivra évidemment les résultats de l'athlète angevine à Budapest, donc pour ces championnats du monde d'athlétisme.
Ouais, puis on a eu aussi, je sais plus, c'est cette semaine ou fin de semaine dernière, il y avait eu aussi les tirages pour l'UFAM.
Oui, c'est vrai.
Parce que l'UFAM a repris aussi l'entraînement, je crois que c'est cette semaine,
ouais,
en début de semaine, justement, le retour sur les parquets. Et du coup, de mémoire.
Alors, elles vont jouer notamment, de ce que je me souviens.
Ça joue beaucoup à l'Est.
C'est ça. Elles vont jouer contre Galatasaray, qui a fait un bon parcours l'année dernière dans cette compétition.
Qui va en finale.
Oui, c'est ça qui va en finale, en fait. Et puis, elles joueront également. Alors, pareil, c'est toujours très compliqué ces noms de villes comme ça. Je vais essayer. Kibirskis. Alors, c'est très, très, vraiment compliqué. C'est du lituanien. Et donc voilà, un club de Lituanie, également donc le CSM Constanta, qui donc est un club roumain, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours compliqué de se pencher un petit peu sur les vrais adversaires de l'UFA, parce que voilà, on connaît pas non plus toutes les équipes, mais c'est vrai que Galatasaray, c'est un gros morceau dès le début. Ça va être intéressant de voir si les Angevines peuvent se placer première de ce groupe ou pas, comme elles l'avaient pu le faire notamment l'année dernière, en tout cas sortir de ce groupe. Donc on suivra ça pour l'UFA. T'as raison, en tout cas Cédric, de le dire, c'est déjà une information importante pour la saison prochaine. Voilà, on va pouvoir passer maintenant sur le circuit international. On va pouvoir tranquillement parler de football et de l'élimination des Françaises à la Coupe du Monde. Voilà, les Françaises qui étaient face aux Australiennes qui évoluent à domicile du côté de Brisbane. Et donc les Françaises qui se sont inclinées au tir au but. Malheureusement, on commence à être vraiment maudits sur ces fameuses séances de tir au but. Après donc un match nul 0-0 et des prolongations qui n'ont donné aucun avantage à aucune des deux équipes, on a eu donc cette séance de tir au but assez folle, il faut le dire, pour ceux qui ont eu la chance de la vivre. C'est vrai que t'as pu la voir, toi ?
Ah, j'ai regardé un petit peu les résumés surtout.
Ouais.
Mais ouais, le scénario est quand même foufou. Hein.
Ouais, voilà, Selma Bacha qui rate son premier penalty. Ensuite, c'est l'entrante, hein, la seconde gardienne, que je retrouve son nom, Durand, c'est ça, Solène Durand qui arrête le penalty de Catley. Ensuite, Périssé qui rate, Arnold, si c'était la gardienne australienne qui a tiré en cinquième. Voilà, on est toujours à trois partout. Trois tirs de chaque côté sont réussis et ensuite Kenza Dali qui rate une première fois son penalty, qui rate, enfin finalement il est à retirer. Elle retire, elle le rate. L'Australienne derrière, Hunt, a la balle de match. Elle rate encore une fois. Ensuite, c'est Vicky Béchaud, la jeune attaquante, qui se présente devant le but et qui rate. Et finalement, c'est Vine qui va donner la victoire aux Australiennes à domicile. Donc voilà, on aura une demi-finale Australie-Angleterre.
Apparemment, il est pas... Enfin, c'est vraiment un but en plus tout con, le dernier péno. Ça se joue vraiment à pas grand chose.
Elle est proche, elle est sur la trajectoire, quoi.
Ouais, c'est ça aussi.
Mais en tout cas, l'arrêt qu'elle a pu faire sur Hunt, une main. assez impressionnant.
Alors que le pénalty d'avant, le ballon passe entre ses deux mains.
C'est ça, main ferme, incroyable séance qui nous a fait vibrer. Fallait pas être cardiaque pendant cette séance. Oui. Mais désillusion encore une fois, alors que les Françaises, bon, après, elles n'avaient pas tellement montré de choses. Elles étaient pas mal dominées quand même dans la plupart du match. Donc c'est quand même assez décevant de la part des Françaises qui visaient une demi-finale, la première de leur histoire. C'est vrai que Clément, ça a été très décevant et très dur pour les Françaises.
Oui, surtout qu'on marque un but dans les prolongations quand même. Enfin, c'est un contre son camp, mais
qui est refusé.
Qui est refusé. Mais après, sur l'ensemble du match, je pense qu'elles méritent pas vraiment de gagner. Enfin, elles ont pas montré grand chose. Elles se sont fait beaucoup dominer.
Ouais.
Et puis il y a eu quand même beaucoup d'occasions pour l'Australie.
Ouais, avec donc ce changement puisque c'était Perromanien qui était dans les buts pendant tout le match et puis à la 120e Solène Durand qui rentre. Ça a failli marcher puisqu'elle a arrêté deux pénaltys quand même. Et donc voilà, c'est dommage pour les Français. C'est vrai qu'on commence à être maudit avec la finale en 2022 contre l'Argentine chez les hommes. 2021 l'Euro contre la Suisse. On remonte peut-être même avec 2006. Donc ça commence à faire beaucoup. Malheureusement, voilà, pour les Françaises, ça ne leur réussit pas encore une fois. Donc au niveau du
le but refusé, il était vraiment, enfin le refus illégitime. Ou...
Moi je vais être honnête sur en fait
parce que normalement il y a un corner, il y a la VAR. En fait, maintenant qui intervient aussi chez les femmes.
Ils l'ont utilisé.
Mais... Ouais.
C'est sur un corner. Et en fait, sur le corner, normalement, il n'y a pas corner pour la France.
Oui,
parce que le ballon est sorti, en fait, avant que ça tape une Australienne. En fait, si on avait marqué, ça aurait été un peu... pareil, ça aurait fait polémique, sauf qu'en plus, c'était une erreur qui ne nécessitait pas la VAR, alors que, effectivement, le but nécessitait la VAR. Donc, voilà, il faut être aussi honnête là-dessus, on va pas être franco-français et être de mauvaise foi.
C'est encore une interprétation... des règles un peu bizarres, quoi, comme d'hab.
D'ailleurs, c'est une faute, qui s'est fait.
En fait, c'est Wendy Renard qui tire le maillot d'une joueuse australienne et elle fait tomber l'autre joueuse et en faisant tomber l'autre joueuse, elle met la tête et, ça va dans le but.
Ça, ouais. Donc, voilà, c'est vrai que c'était un petit peu.
C'est un peu litigieux. Enfin,
c'est un peu litigieux.
En soi, s'il y a une faute pour tirage de maillot, ça peut se comprendre, mais voilà, dire, non, mais en fait, on s'est planté, il y avait 6 mètres et,
Non, c'est pas ça. Dans tous les cas, dans tout cas, c'est pas ça qui est remis en question. C'est juste que pour nous, pour pas être de mauvaise foi, on peut préciser que ça aurait pas été complètement mérité, même si voilà, le but aurait pu être validé sans la faute.
Ça aurait fait gronder le stade, à mon avis,
oui. Je pense que ça, on aurait entendu parler.
Après, il y en a beaucoup qui disaient quand même que c'était arbitrage à la maison pour les Australiens aussi.
L'arbitrage était vraiment pas dingue.
Ouais.
C'est toujours le même problème, de toute façon.
On essaie de se, l'arbitre essaie de se mousser devant le public, quoi, donc.
Ouais, et puis faut pas oublier que d'ailleurs aussi ta note qui te permet d'aller en finale.
C'est ça.
Il y a beaucoup de choses comme ça aussi qui rentrent en jeu.
D'ailleurs, sur la suite du tournoi, l'Espagne s'est ce matin qualifiée pour la finale en battant 2-1 les Suédoises avec 3 buts donc qui sont venus dans les 10 dernières minutes avec Para Luelio, Blockvist qui a égalisé pour la Suède et puis enfin la 90e Carmona qui donne l'avantage aux Espagnols. Demain, ce sera à 12h, à midi plutôt, on dit pas 12h, ce sera donc l'Australie qui jouera contre l'Angleterre. Donc ce sera un très beau match parce que les Anglaises sont championnes d'Europe en titre et puis voilà, l'Australie qui accueille le tournoi et puis voilà pour.
C'est pas l'Allemagne qui est championne d'Europe?
Non, je crois que l'Allemagne est vice-championne d'Europe.
Ah, je croyais que.
Ok, après peut-être, je vais vérifier ça. Tu me mets le doute maintenant. En tout cas, voilà pour l'équipe de France qui s'arrête maintenant à ce stade de la compétition, quart de finale. Mais moi, je trouve en tout cas qu'il y a quand même un signe d'espoir puisque on l'a oublié parce qu'on est allé plutôt loin dans la compétition. Mais il y avait quand même beaucoup de blessés avant le match. Donc c'est quand même assez important. Marie-Antoinette Katoto, Amandine Henry, Delphine Cascarino, c'est des vrais leaders, et Gria Djembok aussi, c'est des vrais leaders dans cette équipe, et on a les JO 2024 qui arrivent, donc l'année prochaine, avec pas comme chez les hommes, pas de restrictions au niveau de l'âge, Donc il y a peut-être quelque chose à jouer à domicile potentiellement pour les Françaises.
Et puis au moins il y a déjà un entraîneur.
Voilà, c'est ça.
Déjà, c'est, enfin,
contrairement aux hommes. Où, d'ailleurs, ça va se faire cette semaine, je crois.
Ouais, enfin, les rumeurs qui.
Ça se joue entre Gourvennec, Julien Stéphan et Thierry Henry. On verra ce que ça donne.
Je suis pas fan d'Henry, hein, pour.
Et pas trop d'expérience maintenant sur une compétition. C'est sa première expérience de sélectionneur premier, on va dire. Il était déjà adjoint à la Belgique.
Avec la Belgique, ouais, mais c'est pas tout à fait le.
Bah, c'est ça, mais du coup.
Le même taf, et quand on voit ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur.
À Monaco,
entre autres, ouais, mais... c'était catastrophique. Au Canada, c'était, enfin, dans le.
Ouais.
Dans la MLS, là, c'était un peu mieux, mais bon.
C'est la MLS.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, limite, les joueurs pourraient surtout. Oui,
il n'est pas resté longtemps. Mais surtout, ouais, Henri. Moi, je vais lui donner le bénéfice du doute parce que c'est une expérience qui, un nouveau métier, on va dire. Mais effectivement, pour un club, j'aurais dit, ouais, c'est vrai que c'est quand même bizarre parce qu'il a pas montré beaucoup de choses. Mais il y a toujours aussi cette histoire avec Prime Video parce qu'il faut qu'il quand même résilie son contrat. Donc, sera à suivre.
Ça ne l'empêche pas
de faire les deux.
De faire les deux.
Oui. Il y a un accord à trouver. C'est ce qu'il disait, c'est que il a été donc auditionné par la FFF, mais il y a quand même un accord à trouver pour pouvoir prendre ses fonctions d'entraîneur des espoirs potentiellement. Voilà pour la.
Ça veut dire que c'est déjà fait.
On verra ça. C'est vrai qu'on s'emballe pas trop.
Si la F, ouais, bon, on connaît le langage de la FFF.
Si on se retrouve avec Gourvennec, on fera moins les balles.
Ouais,
Gourvennec, il a déjà fait, je crois, en plus.
Les espoirs?
Je
suis pas sûr. Ou alors les équipes jeunes, mais
peut-être.
Mais bon, moi je serais pas très emballé par. Peut-être Julien Stéphan à la rigueur.
Oui.
Pourquoi pas? Ce serait moins normal parce qu'il a pu faire de bonnes choses, mais bon. On verra ça. On va rester un peu dans le foot avant de passer à la pause. Souligner que on va revenir sur la journée de Ligue 1 après la pause musicale. Souligner que Marseille joue donc ce soir sa place en Ligue des Champions, donc lors du troisième tour préliminaire, donc de qualification à la phase de poule de Ligue des Champions. C'est contre le Panathinaikos, le club grec qui s'est imposé 1-0. À l'aller, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais
c'était mercredi, donc
ça, c'était acquis, mais non, c'est vrai, on n'en avait pas parlé. Donc une défaite assez, je vais pas dire bizarre, mais voilà, c'était assez surprenant de voir l'OM avec toute sa belle équipe perdre comme ça 1-0 du côté de la Grèce. Voilà, ce soir, il faut simplement gagner par 2 buts d'écart, ou alors évidemment un but plus derrière une victoire en prolongation ou au tir au but. L'OM qui va donc s'avancer avec une défense, enfin avec un fameux 4-4-2 de Marcelino. On a donc en défense centrale Gigot et Mbemba. Et puis on a un double pivot, notamment Verretou Rongier, on le sait, parce que c'est Kondogbia qui a pris un rouge à l'aller. Et donc au niveau de l'attaque, c'est un peu pareil avec Unai à gauche, l'ancien Angevin, Ismaël Assar à droite, et enfin le duo Ndiaye Aubameyang devant. Ça va être intéressant à suivre. C'est vrai que ce serait décevant que Marseille se fasse éliminer à ce stade-là.
Ouais, après je sais pas, des fois s'il faut s'ils sont éliminés, sont reversés.
Non, en Ligue Europa, oui,
c'est reversé. Ouais, pour moi, c'est pas une chose.
Pour le classement UEFA, si, c'est quand même.
Oui, mais
ça fera encore un club de moins sur la Champions League. Mais le problème, c'est que tu regardes beaucoup de clubs français, c'est troisième, c'est espèce de troisième tour.
Ou barrage, parce qu'après, il y a des barrages.
Ouais, mais rien que, souvent, c'est pas au barrage que ça bloque le plus. C'est vraiment sur ce match-là. On n'est jamais préparé, quelles que soient les équipes. Enfin, je trouve que. Ça fait un moment que c'est pas passé facilement. Là, en plus, bon, il y a ce carton rouge aussi. Voilà, tu te prends. T'as à peine commencé ta campagne en Europe, prends un carton rouge.
On parlait d'arbitrage sur les filles. Là, l'arbitrage au match aller, c'était pareil, catastrophique.
On en parle tout à l'heure, mais là, ça avait l'air d'être mieux en championnat.
Ouais.
En tout cas, après, c'est vrai qu'il faut que l'équipe aussi, mine de rien, ils sont arrivés. Tous plus ou moins en fin de, juste avant la préparation, mais bon, ça a été dispatché. Enfin, c'est un peu compliqué de démarrer dans le mouvement comme ça.
Ouais, il manque des automatismes.
C'est ça.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
En pleine période de transfert, enfin, Je comprends pas pourquoi le calendrier, ils viennent le caler en pleine période de transfert. On sait qu'il, enfin, pour tous les clubs, c'est compliqué, du coup.
Ouais, c'est comme ça, ouais, c'est sûr.
C'est, alors que bon, tu pourrais très bien le décaler, après, au mois de début septembre. Il y a encore de la place, hein, je veux dire, tout ça.
On espère en tout cas que l'OM puisse se qualifier ce soir, puisque voilà, comme tu le disais, ça va être très important pour l'indice UEFA et pour garder nos quatre clubs qualifiés potentiellement en Ligue des Champions. On va suivre ça évidemment. Donc ce sera à 21h. Je crois que c'est gratuit. C'est sur M6.
Donc
n'hésitez pas. Juste
exceptionnellement, ils ont décalé en fait le programme
pour les fans marseillais. Juste
de toute façon, après.
Juste après Génération Sport, vous pouvez vous faire un petit.
De toute façon, il y aura sûrement une rediffusion sur W9 ou sinon, de toute façon, résumé sur l'équipe 21.
Oui, voilà, tout simplement. Vous prenez votre téléphone et puis vous regardez le résultat.
Ouais, mais sinon, il y a le CSA qui va taper.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu as dit ça.
Voilà.
D'accord, ok. Il est malin, Cédric. On va passer à la pause musicale. On va s'écouter Neymar Junior, le titre de Green Montana et SDM. Et on se retrouve juste après.
Grinzer, Neymar, yeah. Un MR, pas les mêmes rêves. Une trahison au bout de 100 mètres. Pas grave si la merde s'invite. J'suis seul que sur ma comète. Cœur noir, mais c'est quand même. J'suis toujours là où le mal s'engraine. Négro, j'tiens mes promesses. Donne de la force d'ici, il t'en reste. Elle a raison, dit que j'suis parano. Elle n'a sans aucun respect pour ses fils de Joe. Ces salopes se ressentent. J'ai attendu la floraison. Ma vie, j'aime trop la drogue. Elle penserait avant la fellation. Salope, j'te fermerai la porte. Yo, j'te plains, tout est qu'un fils de teinture. J'ai mon destin et un Glock dans les mains. Pour moi, mon Chanel, Gucci, Fendi, Balmain. Fuck, c'est chiant, putain, j'aime que les miens. Je crois que j'arrive, mais non. La money m'appelle, yeah. Fuck la position. Gros, j'joue jamais dans la raquette, yeah. Dans la vente de H, j'vais devoir te battre ça pour mes liasses, yeah. À Paris, j'porte le numéro 10 Neymar. Comme tu ris gros, je shoot jamais dans la raquette. Fuck la position, je shoot derrière la tête. Pas d'avenir dans les mains, Glock 17 gros, surveille les miens. À Paris, je porte le numéro 10 Neymar. À midi, on ouvre l'Asie. Après, j'ai rempli mon casier. Tire pas sur un Jean qui t'amène à l'asile. Paris, c'est magique, 9 mm, t'assures mieux que la massive. J'ai des refs en cours et d'autres en cours d'assises. Je veux toujours un tas de trophées comme Zizou. Mais gros, c'est une novice, faut pas nous rater. J'ai pris la position, je fais sauter le mur, je la mets à terre. Sur le terrain, la bite siffle la faute. Tu finis direct, t'arrives le. Un autre prend ta place dans le refou. Bah ouais, c'est la thèse. Hier, je te plains, tout est qu'un fils de danse. J'ai mon destin et un Glock dans les mains. Pour moi, mon Chanel, Gucci, Fendi, Balmain. Fuck, c'est chiant, putain, j'aime que les miens. Je crois que j'arrive, mais non. L'harmonie m'appelle, yeah. Fuck la position. Gros, je joue jamais dans la raquette, yeah. Dans la vente de H, je vais devoir te battre ça pour mes liasses, yeah. À Paris, je porte le numéro 10 Neymar. Comme Curry, gros, je joue jamais dans la raquette. Fuck la position, clap, clap, boum, je derrière la tête. Pas d'avenir dans les mains, le 17, gros, je surveille les miens. À Paris, je porte le numéro 10 Neymar.
C'était le titre Neymar Junior de Green Montana et SDM. Et oui, ça nous fait une transition toute faite pour parler du Paris Saint-Germain. Vous rappelez que nous sommes bien sur Radio G, 101.5 FM ou bien sur internet www.radio-g.fr. On est toujours donc dans Génération Sport. On va maintenant parler justement, comme on le disait, du Paris Saint-Germain. Parce que tu le disais en off, Cédric.
C'est la dernière fois qu'on entend cette chanson.
C'est ça, il
pourrait. Au moins un refrain.
Les paroles sont obsolètes, évidemment, puisque Neymar n'est plus parisien.
C'est officiel. Plus numéro 10.
C'est ça, c'est officiel depuis aujourd'hui. Il a rejoint le club saoudien d'Al Hilal. Alors, on savait qu'il avait demandé son départ il y a quelques temps, il y a à peu près une semaine. Le PSG qui voulait aussi s'en débarrasser. Ça, c'est une info parlée de la semaine dernière. Et puis, ce week-end, on a eu c'est pour parler entre Al Hilal et le club parisien et Neymar qui a validé le transfert, on va dire, avec un très gros salaire, avec je crois 100 millions l'année, c'est ça,
ça peut monter jusqu'à 400 millions sur deux ans.
D'accord, super.
Avec en fait un espèce de montage un peu financier bizarre, voilà. C'est qu'il pourrait toucher une partie directe et ou voir l'intégralité, enfin
c'est assez bizarre.
Ouais, et dans les choses qu'on a appris, c'est qu'il y aurait aussi quasiment 100 millions, parce qu'en fait le transfert il est estimé à 90 millions, ouais. Mais apparemment ça pourrait monter grand max à 120.
Oh. Ouais, non mais c'est assez compliqué en termes de budget, en tout cas d'argent, pour le salaire et puis pour le montant du transfert de Neymar. Et puis on a appris aussi ce week-end que Mbappé allait pouvoir réintégrer le groupe professionnel du PSG, lui qui était mis dans le fameux loft au camp des loges. Alors je sais plus si ça s'appelle le camp des loges maintenant qu'il y a
non, c'est plus, je crois, le camp des loges.
Je sais que
plus.
Ça a bougé à Poissy, mais ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, en tout cas, il va pouvoir donc retrouver l'équipe première et notamment pourquoi pas être aligné dès samedi prochain contre Toulouse.
Il fait partie du groupe.
C'est ça, ouais.
Dembélé aussi.
C'est ça, Dembélé qui va pouvoir être éligible également. On a aussi appris que, par contre, le retour d'Mbappé, selon les informations de l'équipe, n'est pas conditionné à une potentielle prolongation. Donc, on ne sait pas encore. Ça va faire un petit peu que je pense comme 2022, avec le PSG qui va essayer de retrouver un contrat pendant cette année avec Kylian Mbappé, et le Real qui va espérer le choper libre, comme on dit. Donc on suivra ça. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce départ de Neymar aussi, pour revenir sur l'information du jour?
Bah, vu que c'est les soldes au PSG, hein, c'est bon, ils ont vendu le plus gros lot là, quasiment. Verratti, je pense que ça va ça va prendre le même chemin. Peut-être pas, en tout cas, il aurait des contacts apparemment pour rester en Europe, parce qu'il voudrait quand même rester dans l'équipe d'Italie. Mais après cette année, le PSG là-dessus, c'est la télé-novela, hein, c'est un rebondissement par heure.
Oui, bah, ça, enfin, c'est tous les jours, et ça.
Voilà, Neymar qui était depuis le départ, de toute façon, sur la liste du PSG pour être transféré, qui avait re-signé pour 5 ans.
Ouais.
Verratti qui a re-signé aussi, je crois, pour 2 ans ou 5 ans. Enfin, c'est bizarrement, c'est tous ceux qui re-signent, en fait, c'est pas une prolongation de contrat, en fait, que tu signes. C'est une promesse de vente.
C'est ça.
Et écoute, Neymar là-bas, on sait pas trop réellement si c'est pour jouer ou si c'est pour être aussi un prêt.
Pour l'instant, bah en tout cas, c'est pas un prêt, c'est.
Pour l'instant, c'est
un transfert. Hein,
pour l'instant, c'est un transfert, mais il y a beaucoup de rumeurs qui iraient dans un sens, peut-être aussi d'un prêt au Barça, parce que le Barça techniquement pouvait pas s'aligner sur ça.
Ouais, tu veux dire qu'en gros, il pourrait avoir déjà un accord pour revenir au Barça, peut-être même dès l'année prochaine.
C'est des pistes, apparemment. C'est soit dès cette année, soit
dans deux ans.
Ce serait un peu un espèce de montage, histoire de patienter et revenir dans 2 ans.
C'est ça, ouais.
Je sais pas réellement ce qu'il en est, mais je serais tellement pas surpris.
Ouais.
Parce que, voilà, le championnat, il a déjà commencé là-bas, donc, le championnat espagnol a repris ou va reprendre.
Il a repris
aussi, donc c'est pour ça, c'est un peu, ce serait un peu étonnant de faire un prêt direct.
Bah, en tout cas, ça a été officialisé aujourd'hui.
Ouais.
Par le club, etc.
Mais je serais tellement pas surpris que, dans 6 mois, on commence à parler d'arrangements ou des choses comme ça.
Ouais, on suivra ça, évidemment. On avait déjà évoqué, évidemment, toute cette folie qui se passe au niveau de l'Arabie Saoudite, mais ça commence à avoir un impact assez fort avec donc Mané, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, et là je parle que des attaquants, et encore j'ai pas cité Roberto Firmino et Riyad Mahrez notamment. Donc voilà, il y a énormément de joueurs qui vont commencer à aller du côté de l'Arabie Saoudite. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Clément?
Pour parler du côté sportif au PSG, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose que Neymar parte, parce que enfin il avait quand même toujours des performances qui étaient, même si l'année dernière c'était pas incroyable, les années d'avant il avait quand même fait de très grosses performances en match, et d'un côté c'est bien qu'il parte parce que tous les problèmes extra sportifs qu'il amenait, ça c'était un peu compliqué, mais de l'autre, sur le terrain, il était quand même toujours performant.
Ouais, quand il était sur le terrain. C'est un petit peu le dilemme avec Neymar, c'est que on a un joueur qui est exceptionnel en termes de potentiel et puis surtout, comme tu le disais, sur le terrain, on le voit avec ses stats. Il est à plus d'une, enfin, d'une
118 buts au PSG, mine de rien.
C'est ça, sur 170 à peu près apparitions, plus le nombre de passes décisives. C'est-à-dire qu'il est décisif au moins une fois par match quand il est sur le terrain. Ouais. Son problème, c'est qu'il n'est pas souvent sur le terrain, qu'il est blessé. Et que malheureusement, on sait, ces blessures ne sont pas dues seulement à de la malchance, mais aussi beaucoup à une hygiène de vie qui est, on l'a vu la dernière avec un passage au McDo, on l'a vu aussi avec Mbappé qui lui a un petit peu remonté les bretelles sur une déclaration. Voilà, le McDo, puis pas mal de choses comme ça. Moi, je me dis aussi, si on doit être parfaitement net, sans tomber dans un Mbappé bashing, que Mbappé a quand même facilité ou en tout cas favoriser ce départ de Neymar parce qu'on sait qu'avant ils étaient proches les deux, ils étaient assez amis et puis après en 2021 après l'arrivée de Messi, c'est vrai qu'Mbappé s'est un petit peu éloigné de Neymar. Il y a eu l'année dernière un petit duel, on va dire entre guillemets, sur pour tirer un penalty. Il a surtout demandé le départ de Neymar, que c'était quand même un geste assez fort. Et aujourd'hui, il rejoint le club une fois que Neymar s'en va. Donc ça peut paraître assez compliqué. Moi, je peux pas m'empêcher de penser un petit peu à ça et que bah voilà, Mbappé aujourd'hui dans ce club, il fait un petit peu ce qu'il veut.
Après, sur la réintégration, je suis tellement pas surpris qu'il le fasse aussi vite.
Parce que tu vois le match contre.
Tu vois, voilà, ce que je veux dire, il y a le match. Bah, après, ça domine, mais il y a rien, il y a pas de finition, il y a pas.
Oui, il
y a pas d'enjeu. Enfin.
Avec Dembélé et Mbappé en plus, ça risque d'être un peu mieux parce que, enfin, sur l'ensemble du match, il maîtrise le match pour moi. Enfin.
Ouais, mais.
Oui, bah il y a plus de passes.
Manque de finition, d'intention, enfin des choses comme ça. Et tu regardes, toi, enfin. Je me demande si au final c'est pas depuis le début limite un coup de poker des deux parce que pour voir si le Real allait s'aligner tout de suite de cette année.
Ah, c'est ça.
Et c'était let's go. Et là, enfin, tu vas voir, ça se trouve, on commence à dire ouais, mais en fait, il va revenir parce qu'en fait, il s'est assis sur sa prime de c'était quoi
de fidélité.
De fidélité. Et du coup. Bah, ils ont accepté qu'ils rejouent. Deux, trois jours avant, il y a eu une fameuse réunion où les deux parties se sont bien expliquées. Ça a bien remis les points sur les i. T'avais quand même le PSG qui disait ouais, mais t'es gentil, tu vas faire couler le club si tu ne re-signes pas. Je suis désolé, mais quand t'es rendu à un point de faire des arguments, c'est comme ça, c'est que t'as rien.
C'est que t'as rien
parce que désolé, c'est pas les. Le salaire de Mbappé qui va couler le club.
Ah ben non, mais n'importe quoi.
Ça va être un facteur.
Et puis surtout, ils n'avaient pas à lui proposer un salaire comme ça.
Qu'on payait tous les salaires en mirobolant.
Ils n'étaient pas obligés de faire ça.
C'est eux qui ont investi dans plein de trucs. Voilà, enfin c'est eux.
Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Pour moi, l'erreur originelle plutôt du cas Mbappé, c'est ce contrat que propose le PSG à Mbappé avec du pouvoir dans le club, avec un salaire démesuré, des primes qui n'ont ni queue ni tête, on va dire, et au final pour dire ah bah ouais mais en fait ce serait bien que tu prolonges et puis d'annoncer 2025 alors que
sur le contrat c'est marqué 2024 plus 1,
c'est ça, et que c'est en plus lui qui décide, ce qui est complètement lunaire. Pour moi c'est le PSG qui fait l'erreur avec ce contrat, et après voilà, c'est tout.
Et puis bon, si tu regardes en termes de d'augmentation, je suis pas sûr que ce soit lui qui a eu la plus grosse augmentation, parce que Verratti, c'est le champion de l'augmentation. C'est quasiment une augmentation tous les ans, voire tous les deux ans sûr.
Ouais, c'est ça.
Depuis qu'il est au club.
Bah après, donc, en même temps, hein, depuis qu'il est au club, il a chopé de l'expérience, il est arrivé de Pescara, il n'était pas le plus gros salaire, et puis après, ça a monté de l'année en année.
À un moment, ils l'ont monté bien haut.
Oui, c'est vrai.
Dès que t'avais Neymar, ah ben moi, je veux 1 euro de plus, ah ben j'en veux 10 de plus, hop, tu vois, c'est.
Ah non, mais
il est rentré dans ce truc-là. Le club a dit amen. Voilà.
Mais moi, ce que je trouve aussi assez ironique, c'est que ils ont voulu montrer les gros bas que l'institution est plus forte en enlevant Mbappé du groupe et en disant soit tu joueras en prolongeant, soit tu partiras si tu prolonges pas. Et en fait, là, il a toujours pas prolongé, mais il va revenir jouer. Donc en fait, tout ce cirque autour de la préparation, notamment du PSG, n'aura servi à rien du tout. Même si j'imagine qu'Mbappé a dû mettre de l'eau dans son vin, il dit a dû dire on verra pendant cette année. Je vous dis pas non, mais je vous dis pas oui non plus. Tu vois.
Par contre, il y a aussi les Espagnols qui veulent l'attaquer en justice.
Ça c'est
le PSG, soi-disant, sur le fair play. Économique, encore une fois.
C'est Javier Tebas.
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 Ouais.
On cherche un jeu de mots là.
Il est très bas.
Tebas, oui, bien vu.
Il oublie la période roi d'Espagne, Real Madrid entre autres, il n'y a pas eu de soucis à Barcelone, il n'y a pas eu d'arrangement,
Ou justement il la regrette, il préfère cette période-là. Bref, en tout cas, tu le disais Cédric, le PSG a fait match nul 0-0 contre Lorient pour la première journée de Ligue 1. Voilà un match qui n'a abouti sur aucun but, mais on a vu une équipe du PSG qui a été un peu plus entreprenante que l'année dernière, notamment sous Christophe Galtier. Vendredi, c'était Nice et Lille qui ouvraient cette saison de Ligue 1 avec ce match nul un partout.
Ah, dans tous les sens du terme, on peut le dire. La qualité du match.
Match nul
de Nice
Et
de Lille.
Oh, ça allait, moi je trouvais.
Oh, c'était dur.
Ah ouais ?
Ah, c'était dur.
Moi j'ai bien aimé. Je trouvais. Mais ça manquait de but, ça manquait de finition. Et gros match de Bulka du côté de Nice. Et puis samedi après-midi, c'est Marseille qui s'est imposé 2-1 contre le stade de Reims. Dimanche, Brest a réalisé une belle remontada contre Lens après avoir perdu la première mi-temps 2-1. Ils perdaient même 2-0 pendant un temps. Ils ont finalement remporté le match 3-2. Multiplex de 15h avec seulement 3 matchs. Montpellier qui fait 2 partout contre Le Havre. Toulouse qui s'impose à Nantes 2-1. Et Monaco qui va s'imposer à Clermont 4-2. On salue Yann qui
On avait un envoyé spécial.
C'est ça, Yann qui était au match.
Donc s'il se met à neiger dans les prochaines semaines, ce sera normal.
Yann qui regarde du football, ça arrive pas tout le temps.
Et qui était en tribune monégasque. Du coup.
Ah oui ?
Ouais.
Ok, très bien, très intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de tribune à Clermont, il n'y en a plus beaucoup, puisque si vous avez pu voir ça.
J'ai vu ça sur les vidéos qu'ils nous ont envoyées, ça fait très vite dans le stade.
En fait, il y a une tribune qui est donc en reconstruction, et littéralement, vous avez un terrain vague avec des grues qui n'ont pas pu être enlevées, et qui étaient, t'avais le match, et puis t'avais des grues à côté, c'était assez particulier.
Comme Moscou pendant un temps. S'ils avaient mis des bâches.
C'est ça, alors que eux, ils n'auraient aucune bâche. C'est-à-dire que la grue est littéralement à 5 mètres du terrain. À 17h, c'est Rennes qui s'est imposé 5-1 contre Metz. Et puis enfin, Lyon a été déçu en s'inclinant 2-1 contre Strasbourg à la Méno. Voilà pour cette première journée de Ligue 1. Évidemment, on aura l'occasion tout au long de la saison de revenir sur tout ce qui s'est passé.
Rennes qui est déjà en forme, quoi.
C'est ça, Rennes qui est déjà en pleine forme. 20h47, on va pouvoir enchaîner sur autre chose que du football avec le rugby et ce match amical entre la France et l'Écosse qui s'est soldé par une victoire française cette fois, 30-27. À noter surtout l'enseignement de cette rencontre, c'est la blessure de Romain Ntamack qui se fait une rupture des ligaments croisés et qui est donc forfait pour la Coupe du Monde. Gros problème évidemment pour Fabien Galtier et son staff. Également c'est Cyril Bailly qui s'est également blessé pour 5 à 6 semaines. Tu le disais Clément, tu as pu regarder le match.
Oui.
Qu'est-ce que tu en as pensé et en quoi la blessure de Ntamack peut être préjudiciable ?
La France a très bien débuté le match. Enfin non, ils ont pris un essai dès la 3e minute ou quelque chose comme ça. Ils perdaient 10-0, ils ont su se reprendre. Ils gagnaient 17-10 à la mi-temps, je crois. Ensuite, ils ont mis deux essais coup sur coup à la 43e et 45e. À cette période du match, tout allait bien, ils dominaient, ils ont eu des possibilités de marquer d'autres essais. Et puis à la 60e, il y a eu une grosse baisse de rythme. Les Écossais, ils ont repris le dessus et on a senti les Français fatigués. Ils avaient plus le même impact qu'en début de match. Et je pense que ça fait aussi partie de la préparation. Ils n'étaient pas encore à 100% justement pour pouvoir arriver au maximum de leur forme contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre. Et puis Ntamack, c'est un gros coup dur. Après, il y a quand même des doublures, même si ça sera pas le même niveau de jeu, mais c'est quand même potable, c'est respectable. Ouais. Enfin, avec Jalibert, Asteuil, il parlait même de peut-être Ramos qui passe en 10.
Ouais.
On verra bien ce que ça donne, mais je pense que, enfin, c'est certes un cadre et une grosse perte, mais ça, enfin, ils arriveront à largement le remplacer.
Ça hypothèque pas les chances des Bleus de remporter ce mondial. C'est vrai, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ouais, puis de mémoire, souvent, nos matchs de préparation avant les échéances mondiales ne sont pas forcément exceptionnels.
Oui, oui.
On sait qu'il y a quand même toujours du travail sérieux.
Il y avait beaucoup de blessures aussi en 2019.
Ouais. Mmh. Et puis, ils sont quand même mis dans un cadre. L'avantage, c'est que comme la Coupe du Monde est en France, là, ils ont pris leur quartier d'été bien à l'extérieur pour se protéger. Ils pouvaient avoir la famille qui était là. Oui. Donc, mine de rien, ça c'est important parce que derrière, après, ça va aller très vite. Hein, pendant la Coupe du Monde, forcément, tu coupes tous tes contacts à côté. Donc, ils voulaient les préserver avec ça. Déjà là-dessus, c'est un bon point à souligner. C'est sur une semaine, c'est juste deux jours le temps qu'ils partent, en fait, qu'il y ait une coupure. Donc, ça, déjà, c'est bien. Après, forcément, ouais, ça va faire un gros vide parce que forcément, voilà, c'est un joueur quand même important dans le jeu, mais dans les vestiaires. Ce qui est dommage, c'est qu'au vu de la blessure, tu peux pas le laisser dans la liste. Tu pourrais d'un accord en accord, le laisser dans le groupe, justement, pour trouver cette cohésion.
Il disait que sûrement il va rester, enfin, il pourra venir aux entraînements et tout, justement. Galtier, c'est ce qu'il voulait. Même les joueurs blessés, ils participent aux entraînements, ils sont là pour donner de l'expérience aux jeunes, pour donner de l'expérience, pour donner de l'expérience, tout simplement.
Et
la liste officielle, c'était quand?
C'est pas encore.
C'est cette semaine, il me semble, c'est ça.
Cette semaine, donc
je crois que c'est jeudi ou un truc comme ça. Enfin, c'est.
On verra ce qui se passera pour
rugby. Non, ouais, du coup, c'est toujours délicat, une blessure comme ça à moins d'un mois.
Ouais, c'est
un événement comme ça. Ouais.
Ouais, ça fait mal.
C'est là-dessus parce que c'était aussi une très belle paire avec Antoine Dupont.
Oui.
Évidemment, les deux collègues les deux collègues du Stade Toulousain. Voilà pour le rugby. On suivra évidemment l'actualité autour de l'équipe de France, puisqu'il y a évidemment un mondial qui se profile dans moins d'un mois, dans 3 semaines, tout simplement.
Et samedi, il y a un autre match contre les Fidji, je crois.
Fidji, ok. Ouais. Ce sera vers quelle heure?
Je sais pas du tout, mais le soir, je pense.
Ok.
Et le dernier match test sera
Australie.
Là, ça va être costaud, je pense.
Ouais, on verra bien.
Celui-ci, il va pas falloir trop regarder, je pense, au résultat, mais c'est plus surtout sur la façon qu'on va tenir ou qu'on va aller les chercher, quoi.
Se mettre en jambe, quoi.
Ouais. France, Fidji, c'est bien, donc, samedi prochain à 21h05. Voilà pour le rugby. On va passer maintenant au tennis avec les Masters 1000 du côté de l'Amérique du Nord avant le tournoi de l'US Open qui se profile très bientôt. Yannick Sinner, l'Italien, a remporté le Masters 1000 de Toronto, notamment en finale contre Demi-Nord. À noter que donc c'est l'une des informations de ce Masters 1000, le retour en grâce de Gaël Monfils qui a battu notamment Eubanks l'Américain, Tsitsipas le Grec et Vukic l'Australien avant de s'incliner en quart de finale contre Sinner, le futur vainqueur du tournoi. On retiendra surtout cette victoire contre Tsitsipas qui est quand même hyper important. Monfils qui est maintenant 276e mondial, qui va pouvoir remonter quelques places au classement ATP. Et donc il jouera notamment ce soir contre Cameron Norrie, l'Anglais. Ce sera vers 21h30. Bientôt pour voir notamment Gaël Monfils. Pourquoi pas refaire un beau parcours du côté de Cincinnati, puisque oui, c'est le Master 1000 de Cincinnati qui a repris. Hier, il y a eu notamment aujourd'hui un très gros choc entre deux Français, les deux numéro 1 français avec Hugo Humbert et Arthur Fils. Et c'est donc Hugo Humbert qui s'est imposé en 3-7, 6-4, 3-6, 6-2. Victoire pour Hugo Humbert qui se qualifie pour le second tour du Masters 1000 de Cincinnati. Voilà pour le point tennis. On termine par.
On a eu aussi la liste déjà pour la Coupe Davis.
Bah, du coup, c'est ce que j'avais dit au début de l'émission.
Ouais, ouais.
Avec Roger Vasselin.
Ce qui est un peu dommage, c'est que, justement, tu vois, des joueurs comme mon fils qui sont en train de remonter en puissance.
Pas encore
sélectionnés. Sont pas sélectionnés. Je trouve ça un peu étonnant de.
Bah après,
de
ils faire pas une... en forme.
Ouais, ouais mais bon.
Mais surtout, là, ils ont pris Manarino, donc Arthur Fils et Hugo Humbert, qui sont, pour le coup, eux, dans une très bonne forme.
Ouais.
Avec Roger Vasselin, Mahut, qui
mais le problème, c'est que je trouve que la liste est vachement tôt, justement.
Ouais.
Pour septembre, sachant que derrière, il reste un master à jouer.
Ouais.
Plus la grande finale où t'as le top 10, généralement, qui est présent aussi. On aurait pu attendre un petit peu et justement, peut-être amener de l'expérience comme ça avec un mon fils, s'il commence à remonter progressivement. Enfin, c'est un peu étonnant comme liste, je trouve, au final.
Ok, très bien. On termine avec des infos de cyclisme. C'était les championnats du monde de cyclisme qui avaient été réunis du côté de Glasgow en Écosse. On avait déjà parlé un peu du cyclisme sur route avec voilà l'équipe de France qui avait pas été au mieux chez les hommes notamment. Du côté du BMX, il y a eu un triplé historique avec donc Romain Mailleux, Arthur Pilar et Joris Daudet qui ont terminé dans les trois premières places.
5 Français en finale.
C'est ça, donc c'était une grosse performance de la part du BMX français. Et puis également, il n'y avait pas que du BMX, il y avait aussi le VTT cross-country avec l'inusable Pauline Ferrand-Prévot qui a terminé première devant sa compatriote Loana Lecomte. Et donc voilà, le VTT français qui brille dans ces championnats du monde avec voilà les filles qui ont pu faire ce doublé, très beau doublé en championnat du monde. Et puis également le cyclisme sur piste qui n'a pas donné lieu à des titres, mais avec deux médailles d'argent et trois de bronze. Et malheureusement donc Mathilde Gros qui n'a pas pu performer lors de ces championnats du monde.
Et puis aussi à noter Lotte Kopecky qui est championne du monde de cycliste sur route après avoir passé 7 jours en jaune sur le Tour de France féminin.
Ok, très bien.
Et Tom Pidcock aussi en VTT.
Très bien pour ce qui est des championnats du monde de cyclisme. 20h57, voilà, c'est bientôt la fin de l'émission. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire, messieurs, sur l'actualité?
Bah, on espère une qualification de Marseille ce soir.
C'est ça, justement, ouais, j'allais y venir, un petit pronostic.
Ah, 2-0, comme ça, au moins, c'est fait.
Voilà, c'est emballé, c'est pesé.
Va pas falloir aller chercher, c'est compliqué, ouais.
Moi, je dis 3-1, doublé d'Aubameyang.
Ok, c'est annoncé. Oui.
Tu le sais pas, mais on est très nuls généralement dans l'émission.
Donc... Ah oui.
Donc ton pronostic, logiquement, ne doit pas se réaliser.
En gros, ce qui se passe, c'est que dans l'émission, on est un petit peu maudit. Dès qu'on tente des pronostics, ça se réalise pas.
Soit on a le résultat, mais pas le bon score, ou on a l'inverse.
Ouais, voilà, bref. Bon, on n'est pas très bon, mais bon, on se débrouille, on fait comme on peut. On essaie quand même de pouvoir analyser de la meilleure des façons. On va vous quitter avec le générique. On va se retrouver donc la semaine prochaine. Normalement, s'il n'y a pas de problème, ce sera le 22 août prochain. La saison qui va reprendre tout doucement pour Radio G. Et puis évidemment, au niveau des clubs en juin, il y aura peut-être plus d'actualités sur les clubs locaux. On sera toujours en train de suivre le SCO. Il y aura bientôt les championnats du monde d'athlétisme du côté de Budapest, la Coupe du monde de basket, la Coupe du monde de rugby. Le sport ne s'arrête jamais sur Régénération Sport. On va se quitter. On va vous laisser aussi avec la suite des programmes sur Radio G. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine.